What is this, Connor? Easy, old man. She's not hurt?
Not wounded,
sir.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosce?
Filomena.
Filomena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si faccia fisso? Come faccia fisso?
Et salut à toutes et à tous les cinéphiles du vendredi, bienvenue dans Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche, avec passion, fougue,
amour,
subtilité, nuance. Et aujourd'hui un Cinémascope où souffle l'esprit de Hugo.
Complètement.
Et cette idée d'engagement ou pas, jusqu'où on va, de quel côté on va, autour de quelques films, quatre films là aujourd'hui, Les Rayons et les Ombres, La Guerre des Prix, Victor comme tout le monde, et Jumpers, qui a sa part d'engagement aussi. Ouais. On en parle avec Clotilde. Salut Clotilde.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Salut Olivier.
Bonjour tout le monde.
Et bonjour Alexis.
Hello tout le monde.
Il y a un indice dans la liste des films et les invités. Je crois que, je ne sais pas pourquoi, Jumpers, ça coche toutes les classes. Ouais, Jumpers Alexis, je vois bien. Et bonjour Sylvain.
Bien le bonjour.
Alors on va commencer de rechef, j'allais dire.
Est-ce que tu as recherché à savoir?
On nous traitera, mon père et moi, de salauds, de collabos. Mais quand est-ce qu'on devient une collabo?
Tout ça, c'est ta faute, moi, j'ai rien fait!
J'ai rien à justifier. Rien! Il a choisi de trahir.
Je suis innocente, vous avez compris?
Il a choisi l'or. La compromission.
Mais on est en direct. On se pose vraiment la question. On dissertait sur la longueur du film, Les Rayons et les Ombres. Donc on vient d'entendre un extrait de la bande-annonce de Xavier Giannoli, écrit aussi avec Jacques Fieschi. Les Rayons et les Ombres avec Jean Dujardin notamment et Nastia Golubeva. Je l'ai
comme
pas répété avant.
Luchère, oui.
L'histoire donc vraie de Jean et Corinne Luchère, tu l'as dit, un père et sa fille pris dans l'engrenage de la collaboration. Les Rayons et les Ombres, c'est un titre qui est emprunté à Hugo, c'est pour ça qu'on en parlait, puisque Les Rayons et les Ombres, c'est un recueil de 44 poèmes écrits après 1830. Alors, Olivier, oui. Ce film.
Ah, vraiment, j'étais hésitant et aujourd'hui, je peux dire aux auditeurs de pas hésiter. J'ai entendu Jean Dujardin en faire la promo sur France Culture. On lui parlait justement de cette longueur, 3h15, c'est vrai que c'est long. Hein, et il disait, on connaît Jean Dujardin, ressenti 1h40. Mmh. Et donc le format classique d'un film, voilà. Et effectivement, je crois qu'on était d'accord avec les personnes qui ont vu le film en même temps que moi, en sortie de salle, là, pour dire qu'on n'avait pas vu passer 3h15 de film, parce que c'est d'abord extrêmement bien fabriqué. On a tous en tête, je pense, Les Illusions perdues, que Giannoli avait fait sur une adaptation donc du roman de Balzac. On a la même qualité technique, photographie, montage, narration, écriture, tout est vraiment bien. Donc, alors évidemment, on peut craindre, comme dans Les Illusions perdues, là on a aussi de nombreuses scènes de fêtes décadentes, sous l'occupation, où le champagne coule à flot, alors que 200 mètres plus loin, on n'a pas ne serait-ce qu'un œuf à faire passer à la poêle. On pouvait craindre qu'il en fasse un petit peu des tonnes autour de cette décadence, mais je crois qu'il a réussi à tenir pour rester dans le propos. Je crois qu'il était question qu'on évoque un peu la question du cinéma histoire. Mmh. Et d'une certaine manière, pour le dire rapidement, l'histoire, donc la somme de tous les événements humains du passé, L'histoire, c'est en fait un immense océan sombre dans lequel tous ces événements sont retombés. D'ailleurs, un des poèmes des rayons et des ondes de Hugo, c'est Océano Nox. Je crois que tous les auditeurs connaissent la première strophe. Oh, combien de marins, combien de capitaines sont partis joyeux pour des courses lointaines, dans ce morne horizon se sont évanouis. Combien ont disparu, dure et triste fortune, dans une mer sans fond, par une nuit sans lune, sous l'aveugle océan à jamais enfoui. Et la dernière strophe, elle le dit encore plus explicitement. Victor Hugo, on en parlera tout à l'heure, peut-être, est quand même d'une intelligence prodigieuse. Où sont-ils les marins sombrés dans les nuits noires, au flot, que savez-vous de lugubres histoires? Et ce sont les lugubres histoires enfermées par l'histoire, sous forme d'océan noir, qui est évoqué ici. Et Giannoli, avec ses collaborateurs et les experts qu'il a consultés, etc., extrait de cet océan noir, il extrait l'histoire de Corinne et Jean Luchaire.
Qui ont réellement existé.
Donc Jean Luchaire, patron de presse, Corinne Luchaire, débutante à succès au cinéma, tous deux sont, comment dirais-je, brillants. Lui est un radical de gauche, pacifiste, on n'est pas très loin de la Première Guerre mondiale. Et puis, bon, ce qui déclenche en fait l'histoire, c'est qu'il est l'ami de longue date d'Otto Abetz, qui va être nommé ambassadeur d'Allemagne en France. Et de cette amitié-là va naître la collaboration interprétée, comme on interprète un morceau de musique, hein, ça va être la collaboration interprétée par Otto Abetz et Jean Luchaire, avec tout ce que ça supporte. Alors, ce que je crois que je vais peut-être pas trop m'étendre, j'avais envie de lire encore de la poésie, etc., mais bon, c'est pas le lieu. Mais en tout cas, je trouve la preuve, le test, pour moi, la pierre de touche que le film est réussi, c'est que vous dans votre fauteuil, vous posez réellement la question: qu'est-ce que j'aurais fait? Parce que et comme la réponse qu'on dit en général pour s'en débarrasser du truc, on dit on sait pas, hein. On sait, oui, mais là le problème, c'est que on finit assez vite par savoir qu'on aurait peut-être pas été mieux que Jean Luchaire, quoi.
Mais c'est ça, c'est en fait c'est à l'épreuve. En fait, qu'est-ce qu'on aurait fait à l'épreuve aussi du quotidien et du toujours et de la complexité
et des événements qui s'enchaînent au jour le jour sans qu'on puisse anticiper que ce soit. C'est comme avec Donald Trump, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Quand est-ce qu'il va s'arrêter avec ces conneries? On ne sait pas trop. Alors, pour peu que votre destin en dépende directement, mais votre destin, mais votre quotidien, manger, dormir à l'abri, etc., ben on comprend très bien comment on glisse. Et Jean Dujardin en parle d'ailleurs très bien. Il dit c'est l'histoire d'une glissade, quoi. Et il l'interprète, je trouve, très bien. Et sa fille aussi interprète très bien cette façon dont on passe de la normalité, même un peu brillante comme ça, à l'enfer, quoi, hein, par degrés successifs, et à chaque fois qu'on prend une décision supplémentaire qui, prise isolément, n'est pas grand-chose, à chaque fois qu'on prend une décision supplémentaire, on serre un peu plus le garrot qui va nous transformer en salaud. Donc c'est vraiment, de ce point de vue-là, c'est quand même, je trouve, extrêmement bien fait. Alors, encore juste un dernier mot, l'histoire et le cinéma ont un point commun, c'est qu'ils nous présentent des choses singulières et pas des concepts. On n'est pas devant l'idée de collaboration dans un livre. Mmh. On est devant Jean Dujardin qui incarne un Jean Luchaire qui a collaboré. Donc ça vous met dans une, avec les dangers que ça présente, parce qu'on peut vous raconter n'importe quelle connerie avec le mage du Kremlin, on l'a vu, enfin bon, etc., hein. Mais en même temps, le cinéma, c'est vraiment le médium qui vous met au contact d'un essai de comprendre l'histoire, vraiment. De ce point de vue-là, Giannoli et Jean Dujardin et j'arrive pas à prononcer son nom,
Nastia Golubeva,
entre autres, donc réussissent parfaitement le
et Auguste Dill, qui est Otto.
Ah oui, alors là, en plus, il y a une ressemblance physique. J'invite les gens à aller voir la photo sélectionnée par Wikipédia pour Otto Abetz, là, Diels. C'est une... vraiment, il ressemble, alors c'est très troublant. Ouais.
On recommande, donc, tu recommandes oui, oui. Les rayons et les ombres. Et donc, on se posait la question, 3h15, ça passe.
Crème.
Les rayons, les ondes de Xavier Giannoli avec Jean Dujardin, donc Nastia Golubeva et Auguste Dill. C'est à voir à Aubenas, à Ruyons et prochainement il sera au Vence. Un autre type d'engagement est sur la crête.
La moitié des clients qui entrent dans nos magasins gagnent moins de 1500 euros par mois.
Vous attendez quoi de moi exactement ?
Leur permettre de bouffer sainement à des prix abordables.
Baisser les prix, ça veut dire dégrader la qualité. C'est ce que vous voulez ?
Non.
La hausse des prix, c'est aussi pour continuer à bien payer nos éleveurs.
Qu'est-ce que vous appelez bien payer vos éleveurs ? C'est mon frère qui a repris l'exploitation.
Je crois que je vais tout arrêter.
Ah, c'est bien, tu vas faire un boulot à la con alors.
Parce que tu crois qu'éleveur, c'est pas un boulot à la con ?
Des fournisseurs comme vous, j'en ai beaucoup.
Ça veut dire quoi ?
Qu'on poussera forcément les plus compétitifs. Je pense qu'il faut miser sur un challenger.
Et vous pensez à qui ?
Contrairement aux industriels, notre lait n'est pas standardisé.
J'espère que vous savez ce que vous faites.
Du volume, du prix, c'est toujours pareil.
Mais pas du tout. Tu veux te faire écraser sans même essayer de te défendre, c'est ça ?
Mais t'arrête, quoi !
La guerre des prix de Anthony Dechaux avec Anna Girardot, Olivier Gourmet, Julien Frison de la Comédie Française. Vous êtes deux à être allés le voir. Alexis, on commence avec toi. Ce film, La guerre des prix, déjà, si tu peux nous dire en deux mots de quoi ça parle.
Pitcher le film. Alors, on suit donc le personnage d'Audrey qui est joué par Anna, qui est dans la
fille. Anna, comment t'y vas ? Tu la connais, en fait. Anna, elle boit des couches chez toi.
Exactement.
Anna Girardot.
Non, voilà, c'est ma pote. En tout cas, elle travaille pour l'exploitation de son frère, exploitation laitière, où là ils créent leur propre yaourt. Enfin, c'est une laiterie, hein, voilà, en Normandie. Et en fait, elle va être propulsée dans la grande distribution pour négocier les prix des yaourts en fait et défendre ses idées, c'est-à-dire produire mettre en avant les produits locaux en fait dans la grande distribution, et parce qu'on voit que les produits locaux fonctionnent mieux à l'heure d'aujourd'hui sur une certaine chaîne de distribution. Et donc elle va essayer de défendre bec et ongle avec son caractère ses objectifs, mais malheureusement elle va se confronter à ce qu'est la grande distribution et ce qu'est aussi la grande mascarade parfois du bio dans la grande distribution. Voilà. Et donc on part sur un thriller très très engagé qui est un film qui a été assez qui est entre la fiction, le réalisateur l'a appelé comme ça, c'est une fiction documentée, c'est-à-dire que c'est quand même un réalisateur qui s'est bien renseigné sur le sujet avant. Le projet vient d'une idée, c'est-à-dire que lui le réalisateur faisait des scénettes auprès des entreprises, donc des espèces de mise en scène de négociations. Et du jour au lendemain, en fait, il s'est retrouvé à faire ça pour la grande distribution. Et l'idée du film vient de là, c'est que... Alors, il y a une phrase que j'aimerais lire, parce que qui est très importante et qui résume bien le film. Donc, c'est « Si on est réunis aujourd'hui dans cette salle », donc c'est ce qu'il a entendu, lui, lors de ces rencontres-là, c'est pour savoir qui sont les requins et qui sont les requins tueurs. Et nous, les requins, on n'en veut pas, ce qu'on cherche, ce sont les requins tueurs. Et donc, en fait, ça représente bien un peu tout le long du film, c'est-à-dire qu'il y a quand même une espèce de mascarade tout le long du film, et malheureusement, c'est souvent le gros qui gagne. Et ce film-là représente bien ce qu'est la grande distribution, c'est-à-dire qu'il y a des efforts de fait, mais est-ce que ce n'est pas que du paraître ? Donc ce film-là représente bien, constate bien un petit peu les négociations qui sont faites en interne. Après, je laisserai Clotilde peut-être en dire un peu plus. Ouais. Sur le film.
J'ai une question tout de suite pour faire écho à ce que disait Olivier, où il disait que le cinéma, justement, c'était une incarnation, c'était pas quelque chose programmatique, théorique. Et est-ce que là, ça l'est? Parce que là, tu le décris, on peut se dire, oulala, ça risque d'être assez programmatique. Alors, est-ce que ça l'est? Ou est-ce qu'il y a une belle incarnation qui nous fait ressentir les nuances?
Je me permets de répondre, ouais. Oui, il y a une incarnation de la part d'Anna Girardot, puisque elle joue ce rôle, donc elle est propulsée dans ce monde requin tueur, mais elle est issue d'une famille d'agriculteurs, donc elle a en fait cet amour pour son frère, tout simplement, elle a envie de le défendre, ses parents étaient agriculteurs, donc elle a envie de défendre ce modèle et ces gens, et elle le répète plusieurs fois dans le film, c'est pas une question d'argent. Parce que voilà, les grandes distributions vont aller chercher les agriculteurs en leur proposant des bons prix, enfin bref, des négociations toujours autour de la question financière, mais qu'en est-il de la qualité de vie, de la richesse en fait qui se traduit autrement que par une richesse pécuniaire en fait. Et oui, elle incarne ça parce que tout simplement, c'est son amour de ce que son frère fait au quotidien qui l'apporte, qui la tente d'aller jusque-là dans ce milieu de requin tueur pour essayer de défendre un modèle qui est celui-là, de le faire préserver. C'est une idéaliste en fait. Elle a vraiment ce profil-là. Et je dirais même plus, c'est un premier film.
Ouais.
Et les premiers films sont souvent très personnels, très incarnés. Enfin, voilà, tu parlais de cette scénette qui a inspiré le film. Et vraiment, Anthony Deschaux, il a été choqué par ce moment où on dit des phrases pareilles et tout le monde applaudit ou personne ne rebondit. En fait, c'est-à-dire que quand on ouvre la porte de ces mondes-là, ben on traverse, comment dire, on traverse le miroir, on n'est plus dans le monde réel, quoi. Il y a d'autres règles du jeu, et quoi qu'il advienne, c'est ça que raconte le film, quoi qu'il advienne, en fait, elle se bat pour quelque chose, elle se bat très bien, mais quoi qu'il advienne, les règles sont très puissantes, très fortes, et voilà, est-ce qu'on parvient à ses fins dans ce monde cruel qu'est l'agroalimentaire?
Et Olivier Gourmet, qui est un vieux briscard du cinéma, lui, il incarne aussi.
Il est magnifique.
Il est fidèle à lui-même, voire il sublime le film dans son rôle de baron, baron du yaourt et de la grande distribution.
Ouais, il est vraiment
mais
super.
Exceptionnel. Il incarne bien ce qu'est la grande distribution, le rend humain, mais en même temps très requin. En fait, il n'y a pas de laisser-passer. Voilà, on sent que lui aussi s'est fait bouffer par la filière. En fait,
il a fait un jump dans l'esprit requin.
Ouais, et c'est un film vraiment, alors d'aujourd'hui, qui est nécessaire, oui, de toute façon, et alors ça changera pas les choses, mais au moins on constate bien la réalité. On constate bien en fait
la complexité de la situation, c'est-à-dire que, comme voilà, Olivier Gourmet ou Anna Girardot dans le film sont pris en étau en fait entre des choses qu'ils pensent et des choses qu'ils sont obligés de faire.
Il y a des conflits de valeurs.
Ouais. Et je dirais même qu'au-delà de l'agroalimentaire, il y a aussi la notion de travail qui est abordée. Enfin, qu'est-ce que le monde du travail au sens large, le travail sous pression, enfin, dès les premières secondes du film, hein, on sent ça. Et c'est important aussi, je trouve, qu'il y a une réflexion autour du travail au sens large dans ce film.
Je crois qu'on n'est pas très très loin des problématiques des rayons et des ombres. Hein. C'est-à-dire, on est tous pris dans des situations contradictoires et il faut faire des choix et on fait pas toujours les bons.
Et c'est ça. Ouais. C'est vraiment la complexité. On ne décide pas comme ça de quel côté on va être, mais non, en fait, ce sont les événements qui nous font pencher.
On est choisi par les événements autant qu'ils nous choisissent. Ouais.
La guerre des prix de Anthony Deschaux, c'est à voir à Aubenas. C'est pas prévu au Vence pour l'instant?
Si, c'est prévu un peu plus tard.
Un peu plus tard. Ok, merci. On continue, on reprend Hugo justement et son souffle.
Vous êtes revenu voir le spectacle?
Nous aussi, on travaille sur Hugo.
Vous travaillez sur Hugo?
Oui.
Faut vous reposer, hein, monsieur Zucchini. Il va vous bouffer, votre Victor Hugo.
J'aime que ça.
C'est quoi votre vrai nom?
Ange Luciani.
C'est difficile, hein.
On est d'accord.
Il y a votre fille qui est venue.
Mais enfin, fallait la retenir, chevalier.
Je savais même pas que vous aviez une fille.
C'est aussi à elle de prendre contact, enfin.
C'est un peu ce qu'elle vient de faire, non?
Je pourrais peut-être essayer un texto.
Ou une photo.
Vous êtes dingue.
Ou un vocal.
C'est quoi un vocal?
Mais mabrouk.
Victor comme tout le monde, de Pascal Bonitzer. par Sophie Filière, donc l'un de ses derniers scénarios, avant qu'elle ne décède il y a 2 ans maintenant, avec Fabrice Lucchini, Chiara Mastroianni, Marine Narbonne. Alors, vous avez parlé la semaine dernière de Maigret et le mort amoureux du même Pascal Bonitzer, mais il ne s'arrête jamais. Que se passe-t-il ?
Ben, je ne sais pas. En tous les cas, il cultive son rapport à la littérature de qualité. Ben là, évidemment, avec Victor Hugo. Moi, c'est vrai que j'ai été voir ce film un petit peu parce que je chronique à Cinémascope au départ. Parce qu'il faut quand même bien partager avec les auditeurs des films qui sont effectivement à l'affiche, même si on n'est pas
emballé de prime abord.
Personnellement de prime abord. Et je dois dire que ce film m'a plutôt du coup agréablement surpris, parce que ce à quoi on pouvait s'attendre, c'est-à-dire une mise en scène exclusive de Lucchini avec sa diction habituelle et son jeu habituel, le même à peu près au théâtre, au cinéma, enfin, etc., etc. Bon, tout ça est contenu, même si ça apparaît de temps en temps, mais il est impossible de faire autrement, de toute façon. Donc ça apparaît. Et du coup, comme ça reste un petit peu en arrière-fond, on a la mise en avant. Moi, j'ai trouvé deux choses qui m'ont intéressé.
Peut-être avant, est-ce que tu peux juste rappeler de quoi ça parle ?
C'est vrai. Mmh. Alors, Fabrice Lucchini s'appelle dans le film Zucchini.
Robert.
Et voilà, et il joue son rôle. C'est-à-dire, il joue le rôle de quelqu'un qui va dire Victor Hugo au théâtre. Voilà. Et pendant qu'il est obnubilé littéralement par la littérature en général, Victor Hugo aussi, et encore plus particulièrement par ce spectacle, où il va faire une présentation du texte tout à fait original, vraiment. Pendant qu'il s'occupe de tout ça, il s'occupe pas du tout de sa fille, quoi. Voilà. Et le film, bon, il faut savoir évidemment que Victor Hugo était très très amoureux de sa fille, enfin de manière tout à fait normale, je veux dire, Léopoldine, qui est morte noyée avec son mari à l'âge de 19 ans. Il a appris ça dans les journaux. Et donc l'éloignement forcé de Victor Hugo et de sa fille Léopoldine, et l'éloignement pas du tout forcé de Robert Zucchini et de sa fille sont mis en parallèle, et en même temps qu'on présente Victor Hugo, on espère que le père va retrouver sa fille, quoi. Voilà, en gros. Et alors les deux choses qui sont mises en avant, donc d'abord évidemment le théâtre. Moi qui connais pas du tout le monde du théâtre, ça m'a intéressé de voir comment ça fonctionne, comment on trouve de l'argent. Bon, il en fait pas des tonnes là-dessus, mais quand même on voit comment on porte un projet. Et en particulier, il y a ces trois jeunes femmes qui montent, on l'entend dans la bande-annonce, qui montent un projet de présentation des femmes de Victor Hugo, parce que ce monsieur Victor Hugo aimait autant les femmes que la littérature, et consommait les trois à peu près de la même manière, excessivement. Et ces trois femmes ont un projet de montrer de montrer Hugo avec un regard un peu féministe quand même, mais sans excès, mais quand même, quoi. Et la fille de Zucchini est une amie de ces trois femmes, et elle s'occupe de théâtre aussi, mais elle s'occupe de tout ce qui est administratif, la caisse, enfin, etc. Donc en même temps qu'on pénètre dans le milieu du théâtre, on gagne un nouveau regard sur Victor Hugo, et on gagne un rapprochement de Robert Zucchini et de sa fille. Voilà, c'est bien mené, hein, c'est bien fait. Et la deuxième chose, évidemment, donc, c'est de pouvoir retrouver Victor Hugo. Parce que Victor Hugo, il est victime de son succès. C'est-à-dire, c'est une espèce d'icône. Je sais bien que ce mot-là est à toutes les sauces. Maintenant, n'importe quoi.
Iconique. Le mot à toutes les sauces, c'est iconique. C'est même pas icône, voilà. En fait. C'est iconique.
Alors, Victor Hugo est une icône et était déjà une icône de son vivant. Mais pour des tas de bonnes raisons. On parle de 2 millions de personnes à son enterrement, tout à fait à la fin du 19e. Donc, et ben, comme souvent les auteurs iconiques, en fait, on les lit pas. Et moi, quand je reprends un livre d'Hugo entre les mains, souvent, ça me tombe un peu des mains, parce que c'est très excessif, c'est des tonnes et des tonnes d'alexandrins.
C'est bien, tellement bien écrit, quoi.
Alors, c'est justement ce que Lucchini a déjà fait souvent au théâtre et même à la radio. Il arrive à prendre des textes qu'on pense connaître par cœur et dont on pense même qu'on est lassé. à la limite. Et puis, il nous les remet en avant. Alors, il y a des gens qui sont énervés par Lucchini, par sa façon d'être, enfin, etc. Mais je crois qu'on peut pas lui enlever un grand talent de lecteur, un grand amour de la littérature qui transpire dans son interprétation des textes. Alors là, on a, durant le film qui est assez court, on a des petites rencontres qui sont ménagées avec Victor Hugo, donc Les Misérables. Évidemment, le célèbre et immense roman, Les Contemplations. Pareil, c'est toujours pareil, c'est immense, quoi. La Légende des Siècles avec Beaux Endormis, qui est magnifiquement interprété par Lucchini dans le film. Et puis des livres qu'on connaît moins et qui, à mon avis, sont des bonnes portes d'entrée pour retrouver Hugo, à savoir Chose Vue. Ce sont les textes qu'il écrivait au quotidien pendant pratiquement toute sa vie. Moi, j'ai lu ça à la fin des années 80. C'est merveilleux. Ça existe au livre de poche. Il a le volume dans le film. Et puis, le livre des tables, qui est une publication posthume de Victor Hugo, où il raconte ses expériences de spiritisme. Parce que quand il était en exil, il pratiquait les tables pas tournantes, mais frappantes. Voilà. Ouais. Voilà, donc
pour essayer de retrouver sa fille, justement. Enfin,
il aurait pu échanger avec Léopoldine au cours de ces séances. Donc rien que pour ce contact avec le théâtre, et ce qui permet, et ce contact avec l'œuvre de Victor Hugo, ce film mérite d'être vu, à mon sens.
Victor comme tout le monde, de Pascal Bonitzer avec Fabrice Lucchini, qui est à voir en ce moment à Aubenas, Rosières, et la semaine prochaine aussi, il sera au Quinconce de Vals. Hop, 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 on termine.
Professeur, j'ai besoin de votre aide.
Je suis en plein milieu d'un cours de sciences. Un cours auquel tu es inscrite, d'ailleurs.
Salut, mes belles.
Viens avec moi. Les méthodes traditionnelles pour comprendre les animaux n'ont pas fonctionné. Mais nous avons réussi, Mabel! Nous avons créé une technologie révolutionnaire qui nous donne un accès sans précédent au monde animal! On l'a appelé Jumpers.
Hein? On met ça dans ça.
Oui, oui, ça dans ça. Mabel, sois prudente!
Jumpers de Daniel Chong des studios Pixar, le dernier que tu as vu, Alexis.
Le 30e, exactement, Pixar. Alors vous allez dire, à force que je fais cette émission, vous allez dire, mais il parle tout le temps de dessins animés de Pixar, etc. Alors je suis un grand fan de Pixar, oui. Je dis la vérité, je suis tous les films que Pixar sort. Et c'est vrai qu'entre le dernier qui était Elio et puis la sortie de Toy Story 5 au mois de juin, on part sur Jumpers, qui est lui un film déjà tout à fait original. Donc je suis le premier à défendre les films originaux de Pixar. Parce que là, on est sur un calendrier qui arrive avec Mario, avec, donc, comme je disais, Toy Story 5, et Jumpers doit faire sa place. Et c'est très compliqué pour ce film-là, malgré des thématiques qui sont vraiment à défendre, qui sont un film de très très bonne qualité. Et j'ai peur qu'il passe à la trappe. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que, donc, on part sur, donc, une histoire originale d'un film qui est une sorte de film science-fiction. On va aller partir sur un thème qui va être plutôt Avatar, parce qu'en fait on suit une fille qui est Mabel, qui va en fait prendre l'apparence d'un castor robot pour aller défendre une partie de la clairière qui est à côté de la grande ville pour aller comprendre les animaux en fait sur le territoire, parce que ce robot a ce pouvoir de comprendre les animaux comme Avatar, en fait on peut le voir. C'est vraiment une copie au niveau de ce scénario là mais c'est assumé, par contre voilà, ça le dit même dans le film, donc c'est assez assez drôle.
Tu veux dire il y a un petit clin d'œil ironique,
clin d'œil. Ah, oui, enfin, complètement.
On est dans l'autocitation.
Exactement, vraiment, c'est dit, il n'y a pas de fioriture là-dessus, c'est assumé. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'il y a ce personnage qui va... alors cette clairière, c'est aussi une transmission, c'est-à-dire que c'est sa grand-mère qui va transmettre ce bout de clairière, parce que c'est aussi un échappatoire pour elle dans le film. Et donc elle va défendre bête et ongle, elle a 17-18 ans, et en fait elle va défendre bête et ongle, cette petite clairière. Pourquoi ? Parce qu'en fait le maire de la ville a décidé donc de détruire cette clairière pour une autoroute. Et donc elle va se transformer en castor pour aller chercher tous les animaux, et et réintroduire...
Ici, en France, on est des écureuils.
Voilà.
Contre les projets d'autoroute. Et là-bas, ce sont des castors.
Et là-bas, ce sont des castors. Alors, pourquoi le castor ? Parce qu'en
fait... Gros.
Plus gros. Plus gros, ouais. Et en fait, il y a certaines espèces qui permettent de réintroduire d'autres espèces. En fait, le castor en fait partie. De réintroduire d'autres espèces pour, en fait, que les canards puissent barboter, etc. Et en fait, elle va défendre donc tout le long du film ses positions à travers le regard des animaux. Et donc c'est une histoire très écologique pour le coup. Avec alors on a l'habitude avec Pixar, il y a toujours une double voire une triple lecture. Donc c'est toujours intéressant d'aller les voir. Et puis je trouve que ça sort un petit peu des sentiers battus. Alors on a des films qui ont traité sur ces sujets-là. Moi je pense au Holorax qui était sorti dans les années des 2012-2013 pour les enfants. Et donc là, si on veut faire un parallèle, par exemple, c'est quand même, on est sur un film sur l'écoute de la nature, sur ce qui nous entoure, etc. Et moi, ça me fait penser tout de suite au champ des forêts, où il y a cette espèce d'écoute, de transmission aussi, parce que le film Jumper, c'est de la transmission, comme le champ des forêts. Et donc rien que pour ça, allez voir ce film, voilà.
Et est-ce que c'est pas anthropocentré, c'est-à-dire que là on a l'impression qu'effectivement elle rentre dans le corps du castor, mais réellement est-ce que le spectateur ressent vraiment est complètement décentré, ou alors il continue de fonctionner comme un humain face à tout ce qu'il voit ?
Non, enfin elle a ces deux facettes, elle a la facette humain et animaux, plus elle avance dans l'histoire et plus elle comprend les animaux et plus elle se transforme en animal. Et en même temps, il y a parfois, on a ce double jeu en se disant, mais je crois que les animaux ont envie de détruire la Terre, là. Donc, non, moi, je fais partie de l'espèce humaine, donc il va falloir que je défende aussi mon territoire. Donc, il y a cette double question en se disant, qu'est-ce qui va se passer, en fait, si, en fait, les deux extrêmes sont pas bons. Et il faut trouver le juste milieu, et justement c'est de trouver cette harmonie là dans la vraie vie déjà en fait. Donc c'est hyper intéressant, c'est comment chacun peut vivre harmonieusement sans prendre le territoire de l'autre, tout simplement.
Voilà. Mais le juste milieu est pas forcément le centre droit, c'est ce qu'on veut dire,
ouais.
Parce que quand on parle des deux extrêmes comme ça, moi ça me fait
exact.
Ok, Jumpers de Daniel Chong, c'est en ce moment sur les écrans à Aubenas, à Rosières, à Ruons, et dès mercredi, il sera au Vence aussi. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, messieurs,
non,
dames,
en tant que radical de gauche, je ne me reconnais pas du tout dans le centre droit.
Non, bah oui, voilà. Tout à fait. Alors, sinon, parlons de cinéma. L'affaire Bojarski est projetée ce soir à 20h30 à l'USAS.
Oui, ça c'est bien. Parce que c'est encore un petit coup d'œil sur l'histoire récente. Alors, on parlait d'incarnation. Là, effectivement, très très incarné par une aventure individuelle qui, là aussi, joue sur la moralité ou pas de ce qu'on fait. Parce que bon, il fait des faux billets, mais les faux billets, c'est déjà une part. Enfin, la monnaie, c'est déjà une part de l'économie qui est suspecte. Alors, faire des faux billets, finalement, est-ce que c'est si mal que ça ? Enfin, il y a une vraie réflexion, mine de rien, dans ce film aussi là-dessus.
Et puis, il y a, alors, le marsupilami, qui est en ce moment sur les écrans. Non, qu'on ne conseille pas forcément. Par contre, allez voir, là, c'est un petit pas de côté, allez voir Baptême, le dessinateur du marsupilami, qui est à Aubenas, là, en ce moment. Enfin, qui sera ce week-end à Aubenas pour les rencontres, pour le carrefour de la, bref, de la BD, quoi.
Du 9e art.
Merci. Du 9e art, l'image. Ça s'appelle comme ça. À l'espace Yénard, à Aubenas. Et puis, une dernière chose, puisqu'il va faire tout pourri, dimanche à 17h au navire, il y a...
Les Chaillés de l'Enfer.
Merci.
C'est vrai.
Et c'est...
C'est un documentaire sur une vigneronne des Côtes Rôties, donc à Condrieu, dans la vallée du Rhône, qui travaille différemment. Donc vous savez que c'est des grands domaines... très très bien, comment dire, très bien lotis, etc. Et elle, voilà, c'est aussi une histoire de transmission, je crois, parce que c'est des vignes qui sont dans cette famille depuis plusieurs générations. Donc documentaire effectivement projeté ce dimanche à 17h en présence du réalisateur et avec un vigneron aussi du domaine du chapitre qui nous fera déguster aussi des vins à l'issue de la séance. Donc voilà, un sur beau réservation conseillée peut-être. Pas oui, si vous le souhaitez.
Parce que là, si tu proposes du vin, une dégustation de vin, c'est je vrai. Pense qu'il y aura beaucoup de monde.
C'est fort possible, oui. Mais en tout cas, oui, un beau documentaire très avec une immersion sonore intéressante.
Une belle image.
Et une belle image. Ouais.
Eh ben, merci beaucoup. On parlera la prochaine fois et d'ailleurs dès lundi du festival Palestine en vue qui aura lieu du 26 au 29 mars. Voilà pour les derniers rendez-vous. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler de cinéma. Et merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. Un bisou à Jérôme qui là n'était pas derrière les manettes mais en fait qui a terminé son stage d'immersion aujourd'hui. Merci à toi. Ciao.